Le monde féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
Selon des statistiques officielles en Afrique du Sud, les agressions sexuelles ont augmenté en 2019 avec 873 cas de plus que l'année précédente, soit une augmentation de 1,7% pour un total de 53 300 cas, ce qui représente une moyenne de 150 viols par jour. Les établissements scolaires deviennent des foyers de violences sexuelles, s'est alarmé le ministre de la Police, Bekki Sélé. Il a souligné qu'au moins 380 cas de viol ont été signalés dans des écoles, universités, collèges et garderies. L'avocate féministe franco-tunisienne Gisèle Halimi, décédée le 28 juillet 2020 à Paris à 93 ans, a reçu les hommages des présidents tunisiens et algériens pour sa lutte des indépendances en Afrique du Nord. Madame Halimi a défendu en 1972, au procès emblématique de Bobigny, une mineure jugée pour avoir avorté après un viol. Elle avait obtenu la relaxe de l'adolescente, ouvrant la voie à la dépénalisation de l'avortement en 1975. Gisèle Halimi a défendu le nationaliste tunisien Habib Bourguiba et la militante du FLN algérien Djamila Boupacha, qui avait été violée et torturée par des militaires français. Dans une interview en 2019, Madame Halimi s'étonnait encore que les injustices faites aux femmes ne suscitent pas une révolte générale. La justice américaine a annoncé le 12 août 2020 l'arrestation de trois complices présumés du chanteur R. Kelly, accusé d'avoir cherché à réduire au silence des femmes l'accusant d'agression sexuelle. L'ex-star de Rhythm and Blues doit être jugé dans différentes procédures dans les États de l'Illinois, du Minnesota et de New York. Des procureurs fédéraux affirment que Richard Arlenz Jr., Donnell Russell et Michael Williams ont été impliqués dans des actes de chantage et de harcèlement afin de faire taire les victimes. R. Kelly est accusé d'avoir payé des témoins lors de son procès en 2008, au terme duquel il a été acquitté. Le chanteur de 54 ans fait face depuis des décennies à des accusations d'abus sexuels sur mineurs. À l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine, le 31 juillet dernier, notre correspondante à Lomé est revenue sur la situation des Togolaises, 25 ans après la conférence de Beijing en Chine, en septembre 1995. Le point avec Kay Lawson, notre correspondante à Lomé.
Cette année 2020 marque les 25 ans de la conférence de Beijing, considérée comme un repère dans la lutte pour l'effectivité des droits des femmes, notamment l'égalité des droits entre hommes et femmes. Un quart de siècle après, Solange Fiati, directrice exécutive de l'association Aléréiké, se souvient de cette grande rencontre qui a suscité de l'espoir auprès des jeunes filles.
En 1995, voir toutes ces femmes que j'admirais et que je continue d'admirer se préparer pour participer à cette grande rencontre des femmes du monde entier était pour moi un peu ma porte d'entrée dans le monde des défenseurs des droits humains. Parce que je me disais que de cette conférence devaient sortir des solutions pour tous les problèmes auxquels sont confrontées les femmes dans la jouissance de leurs droits.
Dans sa déclaration, la conférence de Bédin relève que les droits des femmes sont des droits fondamentaux de la personne. Mais malheureusement, dans certaines zones au Togo, notamment les milieux ruraux, des poches de résistance subsistent encore. Conforte Kabisa Lamboni, directrice du réseau des femmes et développement des savanes.
Il existe encore dans la région des savanes des femmes et des filles qui subissent des stéréotypes, des violences physiques, psychologiques, économiques, des pratiques barbares, rétrogrades, sexistes, qui portent atteinte à leurs droits fondamentaux et à la liberté de choix et d'intégrité physique.
Même si la situation n'est pas celle qu'auraient espéré les défenseurs des droits de la femme, la déception n'est pas non plus au rendez-vous. Nous retrouvons Solange Fiati, directrice exécutive de l'association Aléréiké.
25 ans après, je ne suis pas déçue. Je ne suis pas déçue parce que, au Togo par exemple, le cadre juridique de protection de la femme est amélioré. Aujourd'hui, nous avons des jeunes filles qui se lèvent, qui s'organisent pour protéger, défendre leurs droits. Moi, à mon époque, lorsque j'essayais de défendre les droits humains, j'étais une rebelle. Mais aujourd'hui, nos jeunes sœurs ne sont plus rebelles. Elles sont respectées. Et ça, c'est une fierté.
À l'issue de la conférence de Bédin, un programme d'action a été élaboré pour contribuer à une avancée significative dans le respect des droits des femmes. Une génération après, l'Alliance globale pour la protection de l'enfant et de la femme, AGPF, estime qu'il est temps de changer de stratégie de lutte. Laure Amoussou Amana, présidente de cette alliance.
En cette année où nous commémorons les 25 ans de la conférence, c'est donc une opportunité pour les organisations de défense des droits de la femme, les activistes, les défenseurs de l'équité genre, de revoir un peu les stratégies.
Impliquer les hommes pour qu'ils puissent comprendre que les droits de la femme, c'est le droit de la communauté, parce qu'une femme qui est épanouie est une femme qui contribue autrement à sa communauté. Et donc aujourd'hui, on s'est dit que si l'homme comprenait réellement le bien fondé de cette lutte pour l'équité genre, on aura plus de résultats.
Le plan d'action de Bédin est un document complet, mais qui souffre de quelques lacunes auxquelles il faut remédier pour relancer la lutte, sujet à la défenseur des droits de la femme, conforte Kabisa Lamboni.
La conférence de Bédin a accouché d'un plan d'action assez complet qui n'a pas simplement énuméré les objectifs à atteindre, mais également des mesures pratiques pour y arriver. Même si au constat du chemin reste à faire, disons que le monde entier doit garder confiance car le plan d'action reste guide rassurant auquel il suffit d'ajouter de la sincérité et de l'applicabilité des lois.
Kailoson Lomé, VOA Afrique.
Le docteur guinéen Maurice Anda Kouyaté a remporté le prix Nelson Mandela de l'ONU, coloréat avec la philanthrope grecque Mariana Vardinoyanis, le directeur du comité interafricain sur les pratiques affectant la santé des femmes et des enfants, déplore que la justice de son pays n'ait prononcé qu'une fois la prison ferme, prévue dans la loi de 2010 pour les personnes rendues coupables d'excision, alors que le taux de mutilation génitale féminine est encore très élevé en Guinée. Je les joins à Conakry.
Comparativement aux autres pays, on voit des groupes communautaires qui font l'excision, il y en a qui ne font pas. Quand vous prenez par exemple le Sénégal, vous voyez qu'il y a le plus grand groupe communautaire. Wolof ne le fait pas. Au Niger, par exemple, il y a certains groupes qui le font, d'autres qui ne le font pas. En Guinée, en dépit de la diversité des groupes communautaires, ces groupes communautaires se rejoignent tous dans l'observance de la pratique des mutilations génitales féminines. Tout groupe communautaire confondu et toute religion confondue. Donc, c'est une pratique qui couvre entièrement le pays. Ça rend difficile l'élimination de la pratique. Deuxièmement, il y a le fait que nous avons eu à faire face à des petites résistances que l'on pensait insignifiantes, mais qui ont été vraiment dévastatrices, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas du tout d'accord avec nous, qui prenaient des livres saints, qui allaient raconter n'importe quoi aux populations. Et globalement, en Guinée, nous avons tous été laxistes, permissifs, parce que personne n'arrive à dire, voilà, je vois des filles exigées en file indienne sur la route, je m'arrête et je dis, non mais vous devriez, où sont vos parents? On doit porter plainte contre vos parents, puisque la loi existe, mais tout le monde passe son chemin. Donc il y a eu ce manque d'engagement global, alors que les autorités, elles, se sont engagées. Vous avez parlé de 1960, maintenant c'est en 2018 que les premiers cas de jugement et de condamnation ont eu lieu.
Il y a eu combien de jugements à peu près jusqu'ici?
Ce que j'ai pu voir en Guinée, il y a eu 6 jugements devant des tribunaux. Il y a eu des condamnations, mais ce qui se passe souvent, c'est des condamnations à sursis. Mais sursis, ça ne signifie rien devant des populations qui ne comprennent rien au système judiciaire. Sursis, pour eux, c'est quelqu'un qui est venu, on l'a jugé et puis on l'a laissé repartir à la maison. Il y a qu'une fois, je crois qu'il y a eu condamnation à la prison ferme. Nous sommes en train de faire ce plaidoyer pour que, quelle que soit la durée de la peine qui est prévue par le code pénal, de mettre la prison ferme. Ça va de 3 à 5 ans, puis à une amende. Tout ça, ça existe. Si on emprisonne, alors ça va faire encore beaucoup plus d'effets.
Le comité interafricain sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants, vous êtes à Addis Abeba, donc au niveau de l'Afrique, de l'Union africaine. Alors l'on sait que la volonté existe au niveau politique, au niveau pratique, est-ce qu'elle est réellement là?
Alors, je suis l'un des plus acerbes contre souvent nos dirigeants, je ne suis pas du tout tendre, mais ça, je le fais pour pousser l'agenda de la protection des femmes et des filles. Mais vraiment, je dois dire qu'il y a une avancée, il y a beaucoup plus d'engagement maintenant. Il y a des chefs d'État qui sont désignés comme champions dans un domaine donné. Et par exemple, le chef de l'État du Burkina a été désigné champion de la lutte contre les mutilations génitales féminines de l'Union africaine. Alors, ça montre qu'il y a un porte-drapeau qui tire tous les autres vers l'élimination des mutilations génitales. Elle est là, cette volonté politique. Elle est là, elle est manifeste. Mais elle doit être conjuguée avec aussi l'application des lois sur le terrain, avec l'implication des communautés, avec l'implication des victimes elles-mêmes. Et ça, tout cela doit se tenir en même temps. S'il y a une leçon que nous avons tirée, c'est que la séquentiation des luttes ou des stratégies, ça nous a beaucoup desservi. Nous avons formé, par exemple, les leaders religieux d'un côté, et puis ils sont allés sensibiliser d'un côté. Nous avons sensibilisé des parlementaires qui sont allés sensibiliser en tant que parlementaires, etc., etc., des journalistes. Mais maintenant, la nouvelle stratégie que nous sommes en train d'expérimenter, c'est de faire des groupes intergénérationnels et interprofessionnels pour que des personnes de générations différentes et de professions différentes se mettent en groupe de sensibilisation pour aller vers les populations, pour aller vers les communautés.
Alors à ce propos, aller vers les communautés, étant donné la pandémie de coronavirus, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour éviter qu'on ait une recrudescence d'excision? Parce que l'on sait que depuis la pandémie, les populations sont encore moins facilement accessibles.
Oui, absolument. Ça a affecté vraiment nos programmes. Surtout, imaginez qu'on essaye de sensibiliser sur les mutilations génitales ou sur les mariages d'enfants, alors qu'il y a la pandémie. Les gens ne sont pas enclins à écouter. Donc, c'est venu perturber nos activités de sensibilisation. C'est pourquoi il a fallu réinventer, voir comment on peut le faire. Et ce que nous faisons actuellement, c'est la consigne que nous avons donnée partout à tous nos comités, c'est que si on ne peut pas se déplacer, au moins les ondes de radio se déplacent. Et je vous remercie parce que vous permettez de nous adresser au reste de l'Afrique, au reste du monde, sur les mutilations génitales féminines.
Vous êtes entre Conakry, Addis Abeba et Washington. Alors, on sait que dans certains pays d'Europe, notamment la France, l'Angleterre, les mutilations génitales féminines sont interdites, des peines sont appliquées, elles sont très sévères. Et l'on sait que dans beaucoup d'États aux États-Unis, les mutilations génitales féminines ne sont pas interdites. Quel problème cela présente-t-il pour vous?
Il y a deux pays qui ont mis, quand même, au niveau extérieur à l'Afrique, qui ont mis le sujet des mutilations génitales féminines à l'index. Ce sont les États-Unis et la France. Aux États-Unis, il y a au moins une dizaine d'années ou même une quinzaine d'années, où une Togolaise qui était venue demander asile à cause des mutilations génitales féminines avait été acceptée. Et ce n'est pas une loi, mais une directive fédérale existe. Ça, c'était un peu le résultat de nos sensibilisations. Quand vous allez dans les ambassades américaines partout, il y a des choses qu'on vous dit de ne pas faire quand vous venez aux États-Unis. Et sur cette liste, il y a les mutilations génitales féminines. Donc c'est un effort, mais on doit aller plus parce que la structure politico-judiciaire, sociale des États-Unis est très complexe. Les pouvoirs sont là, c'est centre-choc. C'est un peu compliqué. Par exemple, si nous avons une loi fédérale claire et nette, généralement, cette loi aussi vient faire choc avec des lois locales des États. Alors, c'est pourquoi notre comité aux États-Unis est en train aussi de faire une extension de ses branches à travers les États-Unis pour que dans chaque État, qu'on puisse sensibiliser les responsables politiques de là-bas, les maires, les comtés. Il faut les sensibiliser parce que nous devons savoir qu'il y a certains qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Alors, il y a un grand travail de pédagogie à faire. Cela ne nous décourage pas.
Maurice Ndakouyaté, je rappelle que vous êtes directeur du comité interafricain sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants. Un grand merci pour tout ce que vous faites, docteur.
Merci beaucoup à la Voix de l'Amérique. Merci à vous et merci à tous vos auditeurs. Surtout, n'excisons pas les filles.
La Suède compte désormais plus de femmes prêtres que d'hommes. Sur les 3060 prêtres en service, 1533 sont des femmes et 1527 sont des hommes, soit 50,1% de femmes pour 49,9% d'hommes, indique Christina Grenholm, secrétaire de l'Église de Suède. L'Église luthérienne suédoise autorise les femmes prêtres depuis 1958. En 2013, 70% des étudiants qui suivaient une formation pratique de prêtre étaient des femmes. Les ministres du culte de l'Église de Suède ont le titre de prêtre et ceux servant dans des paroisses extérieures à l'ancienne Église d'État sont qualifiés de pasteurs.
Si je ne pouvais...
Au Cameroun, la consommation de drogue par des enfants augmente, notamment chez les enfants de la rue, les élèves et les étudiants. Des associations, des médecins et des bénévoles tentent tant bien que mal de sortir cette tranche d'âge des ravages de ce fléau. Un reportage d'Emmanuel Juntap à Yaoundé.
Dans les rues de Yaoundé, il est devenu chose courante de rencontrer des enfants consommant de la drogue.
Ils prennent des doses de 50 francs à 100 francs qu'ils introduisent dans les plastiques et ils aspirent.
Des sachets et comprimés contenant de la drogue ont été récupérés entre les mains des enfants de la rue qui fréquentent Edimar, un centre éducatif et d'écoute fonctionnel depuis 2002, mais sans infrastructure d'hébergement pour ces enfants. Patrick Bidong Tiadé est éducateur au centre.
Les manquements à l'éducation qui peuvent venir soit de la famille, soit de la communauté, et soit même du manque d'instruction scolaire, on fait au mieux pour les compenser. Maintenant, il y a d'autres valeurs qu'on essaie d'inculquer, des valeurs d'honnêteté, de travail. Nous mettons un ensemble d'outils éducatifs pour que l'enfant de la rue parvienne à cela.
Marc Essama a été enfant de la rue pendant 13 ans. Il s'attelle désormais à libérer d'autres enfants de l'emprise d'une drogue néfaste, appelée ici le caillou.
C'est vrai, les jeunes consommaient la marijuana, mais il n'y avait pas de violence quand ils ont commencé à consommer le caillou. Le caillou fait en sorte qu'ils deviennent fous, enragés. Et on ne parvient pas encore à connaître la puissance de cette drogue.
Ici, aux alentours de la gare ferroviaire, le prix de cette drogue aussi. Entre 4 et 8 dollars. Écoutons à nouveau l'éducateur Patrick Bidong Tiadé.
C'est d'abord les déchets de cocaïne. Et ça fait même des ravages sur le plan économique parce qu'une petite dose se vend à prix d'or. Pour des enfants qui sont dans la rue et qui sont obligés de faire de petits travaux, de petites activités pour pouvoir s'en procurer.
À l'autre bout de la ville, au quartier Olembe, un jeune étudiant sous le contrôle de son médecin achève une cure de désintoxication qui inclut ce jour la pratique de l'activité sportive. Arel Baté se sent déjà différent.
Nous avons 2 semaines de traitement. Actuellement, nous allons vers la 3e semaine dans laquelle tout se passe bien. Jusqu'à présent, je me sens plus libéré.
Un spécialiste en santé mentale, le docteur Abel Betsem Aziz, prend en charge avec succès des jeunes patients depuis 4 ans. Il nous a fait part de son expérience.
Les étudiants ici et les élèves sont ceux sur qui nous comptons les resocialiser et les ramener à l'école parce que beaucoup ont décroché. Parce qu'avec eux, on peut les réinsérer facilement, ils peuvent reprendre le chemin de l'école.
Selon le Comité national de lutte contre la drogue, plus de 12 000 enfants âgés de moins de 15 ans au Cameroun s'abandonnent à des stupéfiants et produits psychotropes. Emmanuel Jumta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Le monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
Lors de son investiture le 8 août 2016, le président tchadien Idriss Déby, qui en est à son 5e mandat consécutif, avait promis aux femmes et aux jeunes qu'il allait créer des conditions propices à leur épanouissement. Selon l'avis des citoyens, 4 ans après, le bilan est mitigé. Un reportage de notre correspondant à N'Djamena, André Kodmadjingar.
La promotion et la protection de tous les droits de la femme seront au centre de mes préoccupations.
Le président Idriss Déby Itno, à l'occasion de son investiture le 8 août 2016, il s'engage à construire une société harmonieuse où la femme ne sera pas considérée comme une citoyenne de seconde zone, mais aura sa place dans tous les segments de la société. 4 ans après, Epainette Djimina Achil, députée du parti au pouvoir, dresse un bilan plutôt mitigé.
Nous, on est à presque 54% de la population dans la ville de N'Djamena. Nous avons 10 arrondissements et sur les 10, il y a 3 femmes mères titulaires.
Au niveau du gouvernement, on est à 24%. À l'Assemblée, 26%. Nous demandons au maréchal de faire encore plus. Pourquoi au Rwanda, ils sont à 75%. En France, ils sont à 60% à l'Assemblée. Et nous également, c'est ce qu'on souhaitons. Je demande également aux femmes de se battre. Il faut qu'ils s'imposent aussi.
À l'endroit des jeunes, tout en mesurant pleinement leur angoisse et incertitude, Idriss Déby Itno se dit déterminé à apporter les réponses aux préoccupations des jeunes. Des fonds ont été mis en place pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes dans les différentes provinces du pays. Pour le président de l'Union des jeunes nationalistes Louadoum Gardomti Blanchard, la promesse a été tenue à travers ces fonds qui contribuent à la réduction de la pauvreté et du banditisme en milieu jeune.
Ce chantier a mis au profit de la jeunesse tchadienne un fonds de 30 milliards qui a permis à la jeunesse de pouvoir se prendre en charge. En ce qui concerne l'emploi, il y a des pas également très positifs qui viennent d'être posés. Je voudrais justement parler de l'intégration des 2 jeunes à la fonction publique dont le recrutement est présentement en cours. Nous voudrions bien réaffirmer haut et fort que la promesse a été tenue à l'endroit de la jeunesse tchadienne.
Le président national des jeunes patriotes, une autre organisation de jeunes, Mohamed Tchali, donne un avis contraire.
Il y a eu des jeunes tchadiens qui sont sortis des écoles professionnelles. Pourquoi on n'intègre pas ces jeunes? Ces jeunes aujourd'hui se constituent en groupe de pression. Donc ça impacte sur le résultat du mandat du chef de l'État. En ce qui concerne l'octroi des microcrédits, je ne sais pas, on donne à quel genre de catégorie de la jeunesse. Il y a des gens qui vont des activités à la semaine. Surtout ces jeunes qui vendent des essences. Cette jeunesse-là, on peut vraiment le récupérer et le transformer.
Justement, les diplômés sans emploi estiment que cette promesse est une démagogie politique.
Ça fait déjà 7 ans que je suis en chômage. Le gouvernement a lancé un test de contractualisation des anciens. C'est depuis le 1er octobre qu'on a eu à signer le contrat. Ça fait déjà 11 mois aujourd'hui qu'on n'a pas eu un salaire.
Je suis ici un père éducateur. Et le président, dans sa promesse, avait vraiment donné beaucoup de courage aux jeunes. Nous sommes en train de voir que c'est la santé qui est prioritaire. Imaginez, j'ai ma femme, j'ai 2 enfants, mais ce n'est pas facile.
André Kodmadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.